Sur les ondes de Foi FM, la radio qui croit, c'est l'heure de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille avec une joie indicible. Donc je vous souhaite une bienvenue cordiale, chaleureuse. Et il me tarde d'aller immédiatement, n'est-ce pas, dans notre propos d'aujourd'hui, alors que nous allons parler de l'origine de l'Évangile de Paul. L'origine de l'Évangile de Paul. Et pour ce faire, nous poursuivrons notre démarche dans l'Épître aux Galates, chapitre 1. Nous terminerons en fait le chapitre aujourd'hui. Nous lirons les versets 11 à 24, que je vous lis d'ailleurs à l'instant. L'apôtre d'écrire. Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire et elle glorifiait Dieu à mon sujet. » Avec raison, hein? Nous avons vu jusqu'ici qu'il n'y a qu'un seul évangile, et que ce même évangile-là représente le critère par lequel toutes les opinions humaines sont mesurées. Et c'est l'évangile que Paul prêche. Alors, tous les grands discours, toutes les grandes théories mystiques, philosophiques, religieuses et autres doivent être mesurées, hein, être jaugées à partir de l'Évangile. La question à laquelle répond notre texte de ce matin, c'est la suivante. Quelle est l'origine de l'Évangile de Paul, hein? Ce message normatif par lequel on peut juger du bien fondé de tous les autres messages, de toutes les autres opinions. On va sans dire que c'est un évangile majestueux que Paul nous présente ailleurs, entre autres. Il nous le présente dans tous ses écrits, hein? Entre autres dans Romains, dans Corinthiens, dans l'Épître aux Éphésiens aussi, aux Philippiens, et aussi aux Colossiens qu'on a fait intervenir au cours des émissions passées, n'est-ce pas? Maintenant, la question que nous nous posons, c'est où est-ce que Paul a pris cela, hein? Comment a-t-il reçu cet évangile-là? Est-ce que c'est le produit de son imagination fertile, parce que c'est un homme brillant, Paul, hein? Ou est-ce que c'est simplement quelque chose qu'il a entendu et qu'il aurait adapté? Ou encore, a-t-il reçu ça des autres apôtres de Jérusalem qui l'auraient mis au parfum et ensuite il lui aurait dit « Ben vas-y, prêche-nous ça partout où tu vas. » Ben la réponse à ces questions-là se trouve aux versets 11 et 12. « Je vous déclare, » de dire l'apôtre, « je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Le Seigneur a enlevé le voile pour que Paul voie luire la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc un fait on ne peut plus clairement établir. Hein? On ne peut plus clairement établir. Paul de dire, oui, je le prêche, mais je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas non plus reçu d'un homme, je n'ai pas non plus reçu cela d'une tradition quelconque. Non, c'est par une révélation de Jésus-Christ. Vous voyez, cet évangile-là que les judaïsants remettent en question et que les Galates sont en train de ou duquel les Galates sont en train de se détourner ben ce n'est rien de moins qu'une révélation divine. Le Christ lui-même l'a directement mis à son école. Il a mis Paul à son école. C'est dire que ce n'est pas son message, ce n'est pas le message de Paul, mais c'est bien le message de Dieu. Et après cette importante déclaration, parce qu'elle est importante, hein, à savoir la réception d'une révélation directe de Dieu, sans l'apport d'une agence humaine, Paul va présenter des arguments historiques. Des arguments historiques qui faisant appel à des faits de son autobiographie. Les situations avant sa conversion, à sa conversion et après sa conversion attestent l'authenticité de sa revendication et c'est ce que nous allons voir ce matin. Paul avant sa conversion, Paul à sa conversion et Paul après sa conversion. Donc, Paul, avant sa conversion, versets 13 et 14, « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » L'apôtre décrit ici son état pré-conversion, alors qu'il était dans le judaïsme. Et ce qu'il avait été à cette époque, c'était bien connu. Il le dit d'ailleurs, hein, il l'écrit. « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. » C'est un secret de polichinelle, tout le monde le savait. Il fait mention de deux aspects de sa vie avant sa régénération. Premièrement, il confesse, il fait mention de sa persécution de l'Église. Il persécutait l'Église qu'il sait maintenant être l'Église de Dieu. Et deuxièmement, il fait mention de son zèle pour la tradition de ses pères. Et dans les deux cas, Pierre n'était pas moumou, hein, il était un fanatique. Dans le cas de la persécution de l'Église, je persécutais à outrance, et ravageait l'Église de Dieu. Voyez-vous, il n'y allait pas de main morte, hein, mais il faisait montre d'une grande violence. Il faisait montre même de sauvagerie. Le livre des Actes nous rapporte certains faits d'ailleurs. Entre autres, au verset 3 du chapitre 8, il nous est rapporté Saul, ça c'est Paul, hein, avant de c'est Saul de Tarse, Paul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrait dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. On n'est pas en train ici, là, de parler d'une visite de courtoisie ou de quelqu'un qui se pointe à votre porte pour vous faire une démonstration à quel point son aspirateur fonctionne bien. Hein? Nous sommes devant un persécuteur. Un persécuteur. Au verset 10 du chapitre 20 des Actes, il nous a encore rapporté qu'il endossait d'emblée la mise à mort des chrétiens. « J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. » Non satisfait de la persécution de l'Église, Paul ne cherchait rien de moins que sa totale destruction. Il était tout aussi fanatique pour la tradition juive, d'ailleurs. Verset 14, « J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Voyez-vous, les termes dépassent toujours un peu la mesure. C'est toujours démesuré pour l'apôtre Paul. « Je persécutais à outrance » les chrétiens, j'étais animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. On n'a qu'à se rappeler son arrière-plan. Acte 26, 5, j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Voilà donc ce qu'était Saul de Tarse avant de devenir l'apôtre Paul. Écoutez, nul ne va disconvenir qu'un homme comme cela, là, un homme dans un tel état mental et émotif risque pas de changer d'idée ou d'être convaincu par un autre homme. Hein. Il devait être complètement obsédé par ces causes-là. Seul Dieu dans sa puissance, seul Dieu par la puissance de l'Évangile pouvait opérer cette transformation radicale. Et c'est ce qui s'est produit à sa conversion. Et c'est bien là mon deuxième point, verset 15 et la première partie du verset 16. Mais, une belle conjonction contrastive. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens. La belle conjonction qui fait toute la différence. Mais, au début du verset 15, fait ressortir le changement dramatique qui s'est opéré, et ça saute aux yeux simplement en considérant le sujet des verbes. Alors au verset 13-14, nous avons Paul qui parle à la première personne du singulier. « Je persécutais l'Église, j'étais zélé, je, moi. » Alors qu'au verset 15 et 16, c'est Dieu. C'est Dieu qui devient le sujet des verbes. Dieu qui m'a mis à part. Dieu qui m'a appelé. Dieu qui a révélé son Fils, voyez-vous? Ce qu'il est en train de nous dire, en somme, c'est ceci. Tout le fanatisme rageur auquel je carburais, il carburait au fanatisme, n'était pas de taille avec le bon plaisir de Dieu, la volonté souveraine de Dieu, lorsqu'il plut à Dieu. Il nous faut noter qu'à chaque étape, d'ailleurs, l'emphase est sur l'initiative et la grâce de Dieu. Premièrement, de dire l'apôtre, « Dieu m'a mis à part dès le sein de ma mère. » Alors, Paul n'avait pas encore tout à fait ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, accepter Jésus. C'est Dieu qui avait décidé d'accepter Paul et d'en faire son apôtre. Premièrement, Dieu m'a mis à part dès le sein de ma mère. Tout comme Jacob, dans l'Ancien Testament, fut choisi avant sa naissance, de préférence à son frère Ésaü. Tout comme Jérémie, avant de naître, était destiné à devenir prophète. Paul, avant même de venir au monde, avant de regarder passer les petits animaux là, dans son mobile, dans son berceau, là, il avait été mis à part pour être un apôtre. Et s'il avait été consacré à l'apostolat avant même sa naissance, c'est dire qu'il n'y avait pas grand-chose à y voir, on s'entend là-dessus. Et après son choix prénatal, Dieu arrive avec son appel historique. Bon, il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère de m'appeler par sa grâce, c'est-à-dire par son amour immérité. Paul combattait l'Église, combattait les chrétiens à outrance, outrageusement. Donc, il combattait Dieu, il combattait le Christ et l'Église. Il ne méritait d'aucune façon, quelque miséricorde que ce puisse être, non plus qu'il la sollicitait. On ne voit jamais Paul rapporter « Oui, je demandais la grâce de Dieu. » Pas du tout. Cependant, s'il n'a pas cherché la miséricorde l'a trouvé et la grâce l'a appelé. Troisièmement, il nous dit Paul dans son témoignage, « Il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. » Révéler en moi son Fils. Paul persécutait le Christ parce qu'il croyait que le Christ était un imposteur. Maintenant, ses yeux furent ouverts pour voir Jésus. Là, il ne le voit plus comme un charlatan. Non, ce n'est pas un charlatan, le Christ. C'est le Messie, le Fils de Dieu, c'est le Sauveur du monde. Bien sûr que Paul était au courant de quelques faits concernant Jésus, mais maintenant, là, il va au-delà des faits. Il saisit la signification de ces faits-là. C'était une révélation à l'intention des gentils, des païens, des non-juifs. Il plut à Dieu de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce aux païens. Une révélation privée en vue d'une communication publique. Nous avons la même pour nous croyants. Si Dieu s'est révélé en nous, s'il a révélé en nos cœurs le Christ, ce n'est pas pour qu'on garde ça comme une eau stagnante, mais c'est pour le proclamer aussi aux autres. Alors, c'était une révélation, donc, à l'intention des gentils. Il plut à Dieu de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce aux païens. Une révélation privée en vue d'une communication publique. Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument... » Ici, Jésus est en train de parler à Barnabas. Après que Paul eut été mis KO sur le chemin de Damas, on sait qu'il avait perdu la vue pour un temps, et là voilà que Dieu envoie Barnabas vers Paul. Il lui dit « Va, car cet homme, Paul, est un instrument que j'ai choisi. » Non pas un instrument qui m'a choisi, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. La commission de Paul n'était pas de prêcher aux gentils la loi de Moïse, comme les judaïsants le faisaient, mais c'était de leur prêcher la bonne nouvelle de Christ, ce Christ Jésus, ce Christ qui, selon les paroles mêmes de l'apôtre, avait été révélé en lui, lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, une révélation intérieure. Ah oui, ça prend une révélation intérieure pour venir au Christ Jésus. Rappelons-nous les larrons en croix. Il y a deux larrons, par définition, deux bandits qui sont en train de mourir en croix. Et au début, les deux persécutent Jésus. Et voilà que subitement, il y en a un qui se convertit et qui reconnaît Jésus comme un roi. Il est arrivé quelque chose dans la vie de ce bonhomme-là, là. Qu'est-ce qu'il a vu en croix qui était si percutant, n'est-ce pas? Le Christ qui est en train d'agoniser. Mais voilà que Dieu révèle dans le cœur de ce larron-là la royauté du Christ en croix, de sorte qu'il dit « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » L'autre lui continue à blasphémer Jésus. « Si t'es le Christ, ben sors-nous d'ici qu'on retourne voler. Tu » sais. Alors, une révélation donc qui donne la lumière et qui devient tellement partie de notre être là qu'on peut la faire connaître aux autres. On veut la faire connaître aux autres. C'est évident que la conversion et la mission apostolique de Paul, non plus que son message, ne venaient des hommes. Et l'apôtre va ajouter un autre argument, à savoir son après-conversion. Ah, l'apôtre Paul post-conversion, verset 16, deuxième partie jusqu'au verset 24. « Je ne consultais, écrit-il, ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, ça c'est Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait de détruire et elle glorifiait Dieu à mon sujet. » Donc, Paul n'a consulté ni la chair ni le sang. Il ne s'est pas rué vers les apôtres à Jérusalem là pour dire « Écoutez, là, donnez-moi donc une reconnaissance officielle, donnez-moi des lettres de créance, pourriez-vous m'ordonner, s'il vous plaît? » Pas du tout, il n'est pas allé à Jérusalem pour une confirmation de sa révélation, il choisit plutôt de partir pour l'Arabie, faisant vraisemblablement référence là au royaume des Nabatéens, où se trouve la ville de Damas. Et Paul nous raconte l'expérience qu'il y a vécue. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 32-33, il nous rapporte l'expérience suivante. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damaséniens pour se saisir de moi, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai de leurs mains. Voilà un moyen de transport intéressant, dans une corbeille le long d'une muraille. Pourquoi est-ce que Paul avait à subir cette opposition-là, vous pensez? Ben, la raison est simple, pas parce qu'il venait de voler des bonbons à l'épicerie du coin. La raison est très simple, c'est qu'il prêchait l'évangile de la grâce et c'était tellement dérangeant qu'on voulait se saisir de lui. C'est dire qu'il a commencé à prêcher l'évangile bien avant d'aller à Jérusalem. Et éventuellement, il s'est rendu à Jérusalem, où il a pu discuter avec Pierre, mais aussi avec Jacques, le frère du Seigneur. Parce que lorsqu'il dit qu'il a fait la connaissance ou qu'il a visité Pierre, le verbe en grec, là, historio, veut dire une visite pour un rapport, une visite pour une entrevue. Alors, ce qu'ils ont fait, Pierre et lui, et vraisemblablement Jacques aussi, ils ont dû échanger sur leur théologie, sur leur ministère respectif, ils ont eu une bonne communion fraternelle. Paul a certainement grandement apprécié le témoignage de Pierre et le témoignage de Jacques quant à leur rencontre avec le Christ ressuscité et le temps qu'eux autres, ils l'avaient connu dans la chair. Mais il nous rapporte qu'il n'est pas resté très longtemps, une quinzaine de jours tout au plus, après quoi il s'est dirigé vers les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Il était cependant toujours inconnu de visage là par les églises de la Judée. Ils avaient cependant eu vent, ces églises-là, que, oui, l'apôtre avait changé. Ils avaient cependant eu vent de sa conversion, de son ministère de prédication de l'Évangile de la grâce. Nous revenons donc, chers amis, en conclusion, à l'affirmation de Paul au verset 11 et 12. « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Considérant l'absence de contact avec les apôtres de Jérusalem pendant les 14 premières années de son apostolat, et pourtant il prêche le même message qu'eux, nous ne pouvons que reconnaître l'origine divine de ce message-là. Il y a plusieurs personnes, vous savez, qui vouent une grande admiration à Paul en raison de ses qualités intellectuelles, mais ils trouvent son enseignement sévère, sec, compliqué. En bout de ligne, ils le rejettent. Bon, comme on le disait auparavant, d'autres disent que Paul a corrompu le message chrétien de Jésus-Christ. Et d'autres encore croient que Paul n'était qu'un homme ordinaire, solidaire de nos passions et de notre faillibilité, de sorte que son opinion, en bout de ligne, là, ne vaut pas plus que l'opinion d'un autre. Ce à quoi l'apôtre répond que son message n'est pas de l'homme, mais de Jésus-Christ. Pour d'autres, Paul ne fait que refléter la pensée de la communauté chrétienne du premier siècle. Pourtant, Paul s'évertue a montré dans ce passage que son autorité ne venait pas d'un pouvoir ecclésiastique. Il était totalement indépendant des leaders des églises de l'époque. Il a reçu son message, il a reçu sa lumière du Christ lui-même et non de l'Église existante à l'époque. Et pourtant, son message, étonnamment, était en parfaite harmonie avec celui de Pierre. Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Bien, la raison est d'une simplicité enfantine. C'est simplement qu'il prêche le même Christ Jésus. C'est simplement le Christ Jésus qui a enseigné les deux. Celui qui a enseigné Pierre alors qu'il était encore sur terre, le Christ dans son incarnation, a enseigné Pierre après sa glorification. Il les a enseignés tous les deux, mais de différentes façons. Il est vrai, mais le même message de salut. Bon, alors là, vous me voyez venir, comme on disait à l'époque, avec mes skis dans le bain, avec mes grosses bottines. Peut-être que vous n'avez pas encore reçu ce message-là. Peut-être que vous n'avez pas accepté ce message du salut par la grâce seule, par la foi seule, en Jésus-Christ. Et vous pouvez très certainement trouver toutes sortes de prétextes pour le rejeter, toutes les raisons du monde, comme certains en trouvent. Il est cependant de la plus haute importance de vous laisser rappeler que la vérité se tient indépendamment de ce que nous acceptons ou nous refusons. La postmodernité, le pouce d'un bretelle, le torse bombé se dit « il n'y a pas de vérité ». Quel mensonge! Ils prétendent que la seule vérité qui existe, c'est qu'il n'y a pas de vérité, donc la vérité existe. Oui. La vérité se tient indépendamment de ce que nous rejetons ou refusons. La vérité se tient objectivement. Je peux refuser le fait que la mort existe, ça ne m'empêchera pas de mourir. Je peux refuser le fait qu'au terme de ma vie, j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Ça ne m'empêchera pas de comparaître en sa présence et de recevoir la facture. Et si je lui dis, moi, je croyais pas que tu existais ou je croyais pas que j'aurais des comptes à rendre, ça ne change strictement rien. Le message est prêché, la révélation est donnée. Ça ne m'empêchera pas de comparaître en sa présence et de recevoir la facture. Ah, on est au restaurant, on prend un bon repas, bien arrosé, c'est très agréable. Et tout à coup, du blanc! la facture arrive. Bon, on peut toujours la quitter, celle-là. Mais lorsqu'on va comparaître devant Dieu et qu'il va nous présenter la facture, non seulement on n'ajoutera pas un 15 ou 20% de pourboire, mais on sera dans la totale incapacité de la payer, de l'acquitter. La bonne nouvelle du salut, par la grâce, c'est que le Christ Jésus, lui, il a acquitté cette facture-là pour tous ceux qui se confient en lui. Il l'a acquitté pour tous ceux qui, par la foi, s'identifient à lui dans sa mort et dans sa résurrection. L'évangile de grâce que Paul prêche, c'est l'évangile de grâce qu'a prêché saint Augustin, Calvin, et que nous prêchons encore aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre évangile que de venir se placer sous la coupole du Christ, que de venir s'abandonner dans les mains d'un Sauveur tout aimant, qui est toute grâce et qui a manifesté un tel désir et qui a payé un tel prix pour nous racheter. Et c'est par la foi seule que tous ces bénéfices-là sont reçus. Sur cette invitation, l'émission de ce matin se termine, mais on va récidiver, hein? Ah ben oui, elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Puis entre-temps, ben, vous pouvez toujours nous contacter, hein? Vous pouvez toujours nous laisser vos commentaires et vos questions. Il nous fera toujours plaisir d'être en contact avec vous. Que le Seigneur vous accorde une journée de grâce et de paix en plénitude en Christ Jésus, et vous êtes conviés, il va sans dire, à la prochaine.